Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
À CFAQ 88.3, on est de retour pour l'émission le 9. Il y a Ryan qui nous a rejoint pour continuer cette émission. Salut Ryan, ça va bien?
Ça va et toi?
Ben oui. Comme je l'ai dit juste avant la pause, on va continuer ma petite chronique justement sur la politique américaine et entre autres les démocrates. Ce que je disais, oui, c'est ça juste avant. Les démocrates vivent une crise spirituelle. Ils veulent être le parti des familles ouvrières, alors que les endroits où gouvernent, les endroits où les familles ne peuvent plus se permettre de vivre. Donc, c'est un non-sens. Et c'est l'échec politique qui entre les États démocrates. Il est devenu trop difficile de construire et trop cher de vivre dans les endroits où les démocrates ils gouvernent. Il est trop difficile de construire des logements, trop difficile de construire de l'énergie propre, trop difficile de construire des transports en commun. Le problème n'est pas technique. Ils savent comment construire des immeubles, évidemment, des installations de panneaux solaires et des lignes de train. Le problème, en fait, ce sont les règles, les lois et les cultures politiques qui régissent la construction dans de nombreux États démocrates. Vous donner un exemple, le projet de la 2e avenue du métro de New York a été le plus coûteux du monde au kilomètre. New York a-t-elle réformé ses politiques pour rendre la prochaine expansion plus facile et moins chère? Non. C'est ça, les décennies de retard, les milliards de dépassements de coûts sur le Big Dig de Boston ont-ils changé la façon dont le Massachusetts se construit? Pas vraiment. C'est ça, la Californie a le pire problème de logement du pays. L'État compte 12% de la population du pays et 30% de sa population est sans-abri et 50% de sa population sans-abri non hébergée. Cet échec indéniable a-t-il conduit la Californie à construire aujourd'hui plus de logements qu'il y a 10 ans? Non. En fait, si les libéraux veulent que les gouvernements fonctionnent mieux, ils doivent commencer en fait par reconnaître ce qui ne fonctionne pas. Ils doivent admettre que leurs propres politiques ont souvent créé des goulets d'étranglement qui ralentissent le progrès et augmentent les coûts. Ils doivent se montrer prêts à repenser les réglementations, à simplifier les procédures et à donner en fait la priorité aux résultats plutôt qu'au processus. Ben, tu sais, c'est surtout si leur attitude est d'être le parti des travailleurs. Ils n'auront absolument pas le choix, en fait. C'est parce que sinon, c'est un non-sens. Ils se doivent de donner une image. C'est le parti démocrate, c'est le parti, I guess, de gauche américaine.
C'est ça, la gauche aux États-Unis, oui.
Oui, c'est ça. T'sais. Donc, c'est la mise en avant des politiques sociales et justement de l'accessibilité. Mais là, si t'es pas accessible, puis les gens sont pas capables de vivre dans tes États, t'arrives à rien. Là. C'est pas pour rien que les gens ont voté pour Trump. C'était quasiment, je veux pas dire que c'était par défaut, parce que c'est pas forcément vrai, mais c'est des gens qui ont de la misère à vivre, ils arrivent pas dans leur portefeuille, ils se sont dit « Bon, je veux manger, je vote pour qui? » Ils ont voté pour Trump.
Mais c'est que Trump avait une réponse facile à une question compliquée aussi, puis c'est souvent ça le problème un peu des figures très charismatiques, là, c'est que c'est quelqu'un qui va avoir une réponse très facile. C'est ça, les gens ont de la difficulté à payer leur loyer, ont de la difficulté à payer leur facture, tout ça. C'est beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de difficultés. Puis la réponse de Trump, c'est « moi, je vais être votre sauveur, je vais avoir réponse à toutes vos questions ».
Oui, c'est clair, là. Mais là, c'est une réponse populiste, là, tout exactement. Simplement. Puis...
Ben après, à se demander si en quoi le fait qu'une réglementation peut limiter à ce point les démocrates dans la taxation, ça a demandé aussi, tu vois.
Ben, tu sais, mettons, la non-construction de logements sociaux, quand c'est les pires États aux États-Unis, puis il n'y en a pas qui sont mis en place parce que c'est pas possible d'en construire, parce que sinon, ça contreviendrait à l'idée de compétition des immeubles. Ben là, on n'y arrive pas. La seule chose qui peut se faire construire en Californie, c'est des logements de luxe.
Donc, c'est qu'actuellement, c'est-à-dire, les démocrates ne sont pas adaptés en vue des réglementations de Trump ou en vue actuellement des réglementations aux États-Unis?
En soi, ils se disent partie des travailleurs puis ils ne permettent pas aux travailleurs de vivre dans leur État. On va dire ça comme ça. Là. Les gens ils ont de la misère à payer leurs factures et pourtant, la seule chose qui semble les pousser, c'est la Californie veut juste devenir comme un... J'extrapole, on l'oublie pas. La Californie, c'est Silicon Valley, puis on veut promouvoir justement ce type d'entreprise et tout ça,
okay.
Au dépens de la population plus pauvre. Et bien, ça fait mal à sa population qui vote. Et c'est justement quand que la question principale des travailleurs, justement, américains, c'est ben comment je vais payer mon loyer, comment je vais payer ma bouffe. Eux, ils viennent de déménager de la Californie au Texas. ben, ils se disent, ben, j'ai pas mal plus de facilité à vivre au Texas. Est-ce que je peux vivre mieux encore? Mais ils vont voter pour Donald Trump parce que ce qui est important pour eux, c'est peut-être même pas les immigrants, tu sais. C'est peut-être même pas le droit à l'avortement, c'est pas ça à dire.
C'est le prix des œufs.
C'est le prix des œufs. Eux, ils veulent manger des œufs. Fait que, ben, tu sais, c'est pas juste des œufs, on s'entend, mais tu sais, ils veulent être capables de subvenir à leur famille de façon adéquate au moins. Puis ouais, c'est ça, le problème, il n'est pas juste économique ou politique pour les démocrates, il est aussi culturel. Depuis vraiment trop longtemps, le Parti démocrate a été dominé par une vision où le progrès signifie ajouter de nouvelles couches de régulation, de contrôle et d'approbation. Mais un gouvernement efficace n'est pas nécessairement un gouvernement plus complexe. Parfois, c'est un gouvernement qui sait dire non aux intérêts particuliers et oui aux projets collectifs qui bénéficient réellement aux citoyens, comme on disait juste avant. Si on prend la question justement du logement, l'une des raisons pour lesquelles il est si difficile de construire dans les États démocrates, en fait, c'est la prolifération des lois de zonage et des réglementations locales qui permettent à des petits groupes de résidents d'opposer leur veto à des projets d'intérêt général. Résultat, des loyers et des prix de l'immobilier qui explosent, forçant les familles de la classe moyenne à quitter les grandes villes. Ça fait qu'il est temps pour les démocrates d'affronter cette réalité, de remettre en question les obstacles qu'ils ont eux-mêmes créés. C'est la même chose pour les infrastructures. Des projets comme le train à grande vitesse en Californie illustrent vraiment bien la manière dont des décennies de bureaucratie, de tergiversion peuvent faire vraiment dérailler des initiatives pourtant essentielles. Pour que l'État puisse à nouveau mener des projets d'envergure, il doit être capable de construire plus rapidement et plus efficacement en apprenant de ses erreurs plutôt qu'en les répétant. En fin de compte, c'est ça, la survie politique des démocrates ne repose pas uniquement sur leur opposition à Trump ou aux républicains. Elle dépend vraiment de leur capacité à démontrer qu'un gouvernement progressiste peut améliorer la vie des citoyens. Ça signifie en fait abandonner certaines vieilles habitudes, comme accepter un débat honnête sur les échecs passés, adopter une approche résolument tournée vers l'avenir. L'alternative, c'est ça, est vraiment sombre. Excusez-moi. Si les démocrates ne trouvent pas de solution au problème du coût de la vie, du logement, du transport et de l'énergie, ils vont continuer à perdre du terrain face à une droite qui exploite le ressentiment né de la pénurie et de la frustration. Puis pour éviter ça, ils doivent devenir le parti de l'abondance, celui qui ne se contente pas de résister, mais qui construit. Fait que c'est ça, c'était un petit peu un résumé de la pensée d'Ezra Klein. Je pense qu'il est un petit peu optimiste, là. Il rend ça assez facile, on dirait, dans un sens. Je pense pas que c'est très facile de changer des un parti comme les partis sont construits aux États-Unis. Mm-hmm. C'est tout le temps les mêmes personnes, des mêmes classes sociales qui représentent ces partis-là. C'est des gens très, très riches, on va dire ça comme ça. Le communautaire, c'est pas en général leur fort. Ce qui en parle pas, en fait, Ezra Klein, puis ça, je trouve que c'est une grande erreur, c'est ça, c'est la polarisation de la politique aux États-Unis. Il y a une polarisation grave qui a été vraiment lancée par Donald Trump, et j'ai oublié sa prédécesseur, qui a vraiment pavé, en fait, la voie de Donald Trump.
Sarah Palin.
Exactement. Merci. Donc, Sarah Palin, qui a vraiment mis la place à ce genre de politique.
Politique à la Facebook, en fait. Là. C'est la première qui a été chercher les gens dans leur salon avec des posts Facebook, qui a été vraiment chercher l'émotion de l'électeur moyen américain, là, si on peut dire ça comme ça.
Oui, et pas en proposant des choses innovantes, c'est en attaquant, en fait, le parti. C'est pas les républicains et les démocrates, c'est républicains contre démocrates. Puis c'est vrai de l'autre sens aussi. Et moi, je pense qu'une des grandes erreurs démocrates, ça a été de jouer le jeu républicain, justement, dans un sens, essayer de impeach Donald Trump. Justement, on en parlait un petit peu avant la pause. Ça a donné vraiment l'impression, justement, je pense, aux citoyens américains qu'il y a une guerre politique.
Mais il y a une guerre politique actuellement.
Je pense que c'est pas vraiment vrai. Bon. Je pense que c'est plus... Je pense qu'on exagère un petit peu. Toutes les institutions politiques fonctionnent super bien, là. Il y a une crise. Ça, je suis d'accord. Mais il n'y a pas de guerre, là. C'est pas vrai que les républicains et les démocrates, ils s'attaquent, là. Il n'y en a pas un qui a un couteau, puis l'autre un bouclier, puis ils se battent en chambre au Congrès.
Oui, mais c'est quand on parle de guerre, en général, c'est pas matériel, tu vois. C'est vraiment genre sur le comportement, la manière, ça se tacle. Après, je sais pas si aux États-Unis, ça s'est connu pour avoir une politique, on va dire, de critique ou polémisation des sujets vis-à-vis de la concurrence.
Mais c'est plus nouveau, en fait.
Ouais, c'est, ça va...
Actuellement, du coup, ça veut dire qu'on
en est ce moment, c'est comme ça, oui. C'est définitivement comme ça, puis c'est même plus genre... Maintenant, des projets de loi bipartisans, c'est pratiquement impossible à passer ça au Congrès pour cette raison. Parce que, justement, ils essayaient tellement de... ça a commencé, je pense, c'est ça, c'est sous Barack Obama.
Oui.
Ça a commencé sous Barack Obama, justement. Ces attaques-là contre le Parti démocrate, c'était comme... Eh bien, le monde va tellement être tanné des démocrates parce qu'ils ne vont savoir rien passer sous leur mandat parce qu'ils bloquaient absolument tout ce qui passait au Congrès. Tout, là. Empêchait absolument toute déclaration. Et ça a forcé, justement, Barack Obama, à la fin de son mandat, de multiplier les décrets présidentiels, justement, pour...
Faire quelque chose
parce qu'il n'était plus capable. C'était un gouvernement minoritaire, je pense. C'était-tu dans les deux chambres? En tout cas, définitivement dans une. Il n'y arrivait pas. Puis c'est ce qui est arrivé par après, justement. Ça a été une victoire républicaine parce qu'il ne s'est rien passé sur le démocrate. Et je pense qu'ils ont accentué cette polarisation-là, les démocrates. Ils ont joué le jeu à Trump. Puis justement, je pense qu'ils ont justifié... son attitude de comme je vais sauver les États-Unis, vous voyez, tu sais, on est vraiment.
Il y a une menace.
Il y a une vraie menace, tu sais, vous voyez ce qu'ils font, tu sais, ils nous attaquent pour vrai. Puis là, on est tombé dans les discours, évidemment, complotistes, que Trump aurait dû être élu sous Biden. Tu sais,
en 2020, qu'il aurait gagné les élections.
Oui, qu'il aurait gagné les élections, les scams, les fraudes. Donc, je pense qu'il sous. C'est ça, Ezra Klein, je pense qu'il, justement, il sous-estime la force de cette image-là qu'on a eue dans les dernières années sous Trump et sous Biden.
C'est un peu un couteau à double tranchant, en fait, parce que si on regarde, c'est Michelle Obama qui disait famously « when they go low, we go high ». Donc, quand ils donnent un coup bas, on remonte par-dessus. C'est un peu difficile parce que autant que, oui, les démocrates jouent avec les règles du jeu, mais c'est un peu, je pense, ce qui mène... Ce qui a mené un peu à leur perte, entre guillemets, c'est sûr, ils sont pas perdus encore, là, mais ce qui a mené un peu à leur perte, c'est que les républicains, présentement, sous Trump, ils ont jeté le livre de règles. Ils ont carrément brûlé le livre de règlement. Eux, ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Mm-hmm. Et les démocrates sont encore pris dans le carcan un peu de suivre les règles parlementaires, suivre les règles du gouvernement et tout ça. Et sont encore pris dans l'idée un peu, pendant plusieurs années, depuis les années 80, autant le Parti démocrate que le Parti républicain, c'était des partis qui s'intéressaient à ne rien faire quand... En fait, c'est des partis qui étaient très intéressés à être le parti de l'opposition, mais pas nécessairement à être le parti au pouvoir, parce que quand t'es le parti au pouvoir, il faut que tu fasses quelque chose.
Ouais.
Donc, aux États-Unis, c'était très intéressant pour eux, autant les républicains que les démocrates, d'être le parti d'opposition parce qu'on faisait juste chialer contre le parti au pouvoir, s'opposer à tout ce qu'ils faisaient, mais sans nécessairement apporter quelque chose.
Puis, c'est beaucoup plus facile après d'arriver à une rhétorique. OK, on fait une concession, on arrive à un projet de loi bipartisan, puis c'est nous qui a permis ce projet bipartisan.
Exactement.
Bon. Donc, j'ai eu de la misère à rebondir là-dessus, mais c'est ça. Donc, je pense qu'il y a une... Quand même, je trouve que c'est ça, faire les mêmes beaucoup et justement utiliser les mêmes tactiques qui sont, je pense, par moments antidémocratiques, comme les gerrymandering et ces choses-là. Pour expliquer, là, c'est les gerrymandering, c'est les découpements électoraux.
Stratégique.
Oui, c'est ça. Puis nous, par exemple, au Canada, c'est fait par une firme privée. OK, fait que au Canada, ouais, je suis au Québec et au Canada, je crois. Oui. C'est des firmes privées. Donc, ils découpent selon les populations.
Les statistiques.
Oui, c'est ça, les populations pour que ça soit adéquat lorsqu'on vote, puis tatatitatata.
C'est non partisan, dans le fond.
Pour vous donner une idée, là, c'est pour ça que les partis de région ont un vote plus important par personne que les gens en ville. Vous donner une idée. Aux États-Unis, le gerrymandering, mais en fait, c'est ce découpement électoral-là, il est fait par le je ne sais plus exactement, mais par le parti qui est au pouvoir à ce moment-là. Ce qui fait que, il faisait du découpage ethnique.
Oui, exactement. Aux États-Unis, il y a des places que tu as vraiment un côté de la rue qui est dans un district et l'autre côté de la rue qui est l'autre district,
ouais.
Simplement parce que ce côté-là de la rue, historiquement, c'était des personnes noires qui habitaient là. Donc, ça l'a énormément polarisé la population américaine à cause
exact.
De ça, en fait. Là.
Oui, oui, c'est ça. Fait que, imaginez, lorsqu'ils votaient, ben, ce petit coin-là gagnait à 90%, mettons, démocrate, mais ça faisait que tout le reste, dans une normalement, en fait, il y aurait dilué le vote dans plusieurs circonscriptions, mais là, ils sont tous mis dans une, donc c'est un vote au lieu de peut-être trois. Donc, gerrymandering, c'est ça. Il découpait les quartiers qui votaient plus un parti ou l'autre. Puis ça a été vraiment historiquement républicains qui ont fait ça.
Oui.
Mais ce qui, je pense plus qu'il est tant le cas aujourd'hui. Il va falloir se laisser, en fait, sur ça. On s'en va écouter... Enfin, on s'en va en pause publicitaire. On s'en va écouter une petite chanson. On s'en va écouter Babyfoot de Phelps. Donc, on se revoit tout de suite après.